Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fred Beltrando, bonjour.
Mais bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur de ce livre dont on va parler, Le ruban de Sisyphe, aux éditions Rivière Blanche, une maison française spécialisée à la science-fiction. Ça tombe bien, votre livre, c'est de l'anticipation. Mm-hmm. C'est une dystopie qui fait un peu froid dans le dos et qui fait réfléchir. On va en parler, évidemment. Alors, on vous connaît dans le coin du Chablais valaisan. Vous faites de la formation du canton du Valais, d'ailleurs. Vous faites de la formation d'adultes. Vous faites aussi plein de trucs artistiques, il y a eu du théâtre, il y a eu de la chanson, touche à tout de l'art.
Ouais. Oui, c'est une question.
Il faut développer.
Pourquoi hein. je vais développer. Oui, touche à tout. Quoique je me suis un tout petit peu calmé, mais effectivement, j'ai toujours été un peu trop beaucoup touche à tout. J'ai toujours un très bon ami qui avait l'habitude de me dire, tu peux pas être à la fois vendeur de pinards. À l'époque, je travaillais chez Provins, chroniqueur à Radio Chablais, comédien, chanteur et écrire des bouquins. En même temps, celui qui me disait ça, il était journaliste, homme de scène, écrivain et peintre. Donc c'était un petit peu l'hôpital qui se foutait de la charité. Mais dans une certaine mesure, il avait raison et je suis toujours... Alors j'ai mon cerveau qui fonctionne comme ça parce que j'ai toujours 50 000 idées. Par contre, j'ai appris maintenant à lancer des projets et à les terminer, à aller un peu plus au bout des choses, ce que je faisais malheureusement pas il y a quelques années en arrière. Donc j'amorçais plein d'idées, un spectacle par-ci, un one-man show par-là et... J'étais jamais complètement satisfait du résultat parce que je savais que j'aurais pu aller un peu plus loin, en fait, dans la démarche. Et puis, moi, le côté, alors oui, j'ai horreur des étiquettes, j'ai horreur d'être bloqué. Quand j'ai commencé à faire de la chanson, on me disait que t'étais mieux à faire du comique. Quand j'ai commencé à écrire, on me disait que t'étais mieux à faire de la chanson. Quand j'ai commencé en chanson à faire de l'électro, on me disait que c'était mieux de faire de la chanson française.
Faut changer d'amis.
Puis il faut que ça me plaise aussi. Je suis quand même un petit peu mon premier public. Donc,
Il y a un truc un peu foisonnant dans ce que vous me dites. Ça part dans tous les côtés. Là, vous m'accueillez chez vous. C'est extrêmement ordré.
C'est très ordré. C'est très ordré parce que c'est pas du tout feng shui. Parce qu'il y a des bouquins, il y a des disques, il y a des meubles, des machins comme ça. Et j'ai besoin, comme j'ai le cerveau en fait, qui carbure tout le temps. J'ai toujours un problème qui me pose des fois des problèmes de concentration ou autre chose comme ça. J'ai besoin que les choses soient très ordrées. Ce qui fait de moi à la maison une espèce de maniaco-obsessionnel du dérangement qui emmerde tout le monde.
Je le pressentais
un
peu.
Ah non, mais clair. C'est... Mais non, pour dire à quel point. Je suis devant la télé, on est en train de commencer à regarder un film avec ma compagne. Sous la télé, il y a une pile de DVD. S'il y en a un qui n'est pas vraiment rangé, je me lève pour le remettre comme il faut. Les tableaux, je me lève de table pendant qu'on est en train de manger pour les remettre comme il faut. Parce que voilà, j'ai besoin de cet ordre pour pouvoir... pour que mon cerveau soit hors désordre, bon, c'est ça.
J'ai une question, il faudra une réponse rapide parce qu'on ne va pas passer trop longtemps.
Ah oui, je parle
un
déjà
livre,
trop.
Okay. Un livre rangé horizontalement.
Non.
Est-ce qu'on doit lire le titre ou est-ce que le titre doit être à l'envers?
Alors, ça dépend. Ça dépend à quel niveau il est. Je ne pourrais pas faire une réponse courte. Parce que s'il est placé, à 80 cm du sol, il faut qu'on voit la couverture. Donc, que le titre soit à l'envers ou à l'endroit, on s'en fout. Par contre, s'il est placé à hauteur du regard, il faut bien évidemment que sur le bord, on lise le titre dans l'ordre.
Voilà, nous avons donc faire un vrai psychopathe.
Compète.
Bon. quelle affaire, hein. Moi je me suis plongé dans ce livre, il est touffu, il est riche, on va le pitcher un peu, parce que je crois que c'est la seule façon d'attaquer cet entretien, qu'on comprenne un peu, puis je peux le faire, mais je préfère essayer de faire ça avec vous.
Oui, parce que le problème c'est que je ne me rappelle plus en fait.
Oui, c'est ça. Non, la différence en fait... entre vous et moi, c'est que moi je l'ai lu, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Moi j'ai fait que de l'écrire en fait, c'était pas super compliqué. Non, le pitch, pour faire simple... En fait, imaginez que dans les années 2090, on est dans une société un petit peu aseptisée, dans cette société où on n'a plus tellement tendance à penser par soi-même, où les gens gagnent des points de sociabilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir augmenter leur richesse et leur revenu social. Il y a un type qui s'appelle Jonathan Doe, qui, sans le vouloir, va devenir l'instigateur d'une révolution à son corps défendant. Et puis, et là, je vous fais un résumé en deux secondes d'un truc qui dure déjà 200
pages. Pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai lu.
Et puis, c'est bien, ça prouve que je me rappelle. Et puis, ce type, donc, va, son corps défendant va être l'instigateur d'une révolution. Ça ne se passe pas comme il veut, donc il va décider de s'exiler. 800 ans plus tard, une historienne qui s'appelle Léa Dicabod va retrouver, en fait, ce qu'on considère comme sa dernière demeure, la dernière demeure de ce type qui est devenu quasiment un néo-messie. Et elle va retrouver ses écrits. Enfin, ces écrits qui vont être diffusés de nouveau sur une espèce de réseau. Et il s'avère que, ben, entre ce qui s'est fait, ce que la religion la religion qui a été mise en place après son passage, et ce que lui pensait, ben, il y a une grande différence. C'est un petit peu comme si maintenant on retrouvait des écrits de Jésus-Christ, des écrits
qui
de Mahomet, qui contredisent en fait ce qui est en train de se passer. Donc ça va de nouveau être le bordel. L'État en place ne va pas être satisfait de ça, et de nouveau, changement. Et puis, quelques années plus tard, pas aussi loin, mais on va commencer à se poser la question, est-ce que ce type finalement est toujours vivant? Il aurait peut-être un millier d'années, est-ce qu'il aurait atteint l'éternité? Et ça sera la quête de le retrouver et de savoir ben, pourquoi. Et tout ça en fait, c'est le fil conducteur, mais l'histoire surtout, c'est d'où le ruban de Sisyphe. C'est-à-dire, je ne sais pas forcément nihiliste, je ne pars pas du principe qu'on va tous mourir et puis que l'humanité est perdue. Par contre, je pense, je ne suis même pas sûr d'être d'accord avec moi-même, mais c'est un éternel recommencement.
C'est le côté ruban.
C'est le côté ruban.
Parce que Sisyphe, le ruban, moi, j'ai pas tout à fait compris ruban de Sisyphe. Alors Sisyphe, je voyais
bien
d'abord
le mythe. C'est comme le ruban de Moebius, en fait. Le ruban de Moebius est un ruban, en fait, dont les deux routes vont jamais se croiser, mais qui c'est le signe de l'infini. Et Sisyphe, simplement parce qu'en fait, l'homme remonte sa pierre sur la montagne, et au contraire du mythe de Sisyphe où c'est Dieu qui décide de refaire dévaler la pierre, c'est l'homme tout seul qui refait dévaler sa pierre. Donc il passe son temps à monter sa pierre, à la faire dévaler, mais il la remonte à chaque fois. Mais il la refait dévaler à chaque fois.
Bon, il y a la lecture de Camus, hein, évidemment.
Ouais,
il faut imaginer Sisyphe heureux. Et puis, c'est le symbole d'une sorte de révolte. Hein, Sisyphe aussi, l'homme révolté. Alors moi, j'ai vu ça, en effet. Hein, le long cheminement pour la conscience dans une société un peu totalitaire, un peu, beaucoup même totalitaire.
Un petit peu beaucoup,
voilà, carrément orwellienne. Dans une société comme celle-là, bah, l'encheminement qui amène à la conscience de ça, puis à la révolte, involontaire pour votre personnage, mais il finit par y croire quand même révolte.
Oui.
Hein. Le problème, c'est que juste après, il y a un nouveau système totalitaire qui se met en place. Est-ce qu'il ne manque pas un petit moment de joie quand même?
Oh, il y a un petit moment
les
de joie, mais comme...
Elles ont leur sens quand même. Elles amènent quelque chose.
Elles amènent quelque chose qui est toujours de courte ou de moyenne durée, comme les dictatures sont de courte ou de moyenne durée. C'est une opinion, hein, et je suis même pas sûr, de nouveau, je suis pas en train de dire aux gens vous devez penser comme ça, c'est
roman,
pas de la théorie politique. Je préfère l'idée, je suis pas un philosophe, mais je préfère l'idée du philosophe qui pose des questions plutôt que celui qui apporte des réponses, ce qui me paraît quand même plus judicieux. Donc là, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Faut qu'on l'arrête parce que les gens vont trouver que ce bouquin est complètement chiant en fait et hyper philosophique.
Mais
la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour sortir de cette espèce de cycle où il y a toujours des moments de joie, mais qui sont toujours suivis de moments un peu plus douloureux et qui sont eux-mêmes suivis de moments de joie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il y a une grande différence, justement, dans le bouquin, on parle beaucoup, enfin j'essaye de parler beaucoup, la différence entre la pensée individuelle et la pensée de masse. Individuellement, effectivement, j'ai un boulot qui fait que je rencontre beaucoup de gens. Des vrais sales cons, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Les gens, quand on les voit individuellement, ils sont sympas.
L'effet de masse, on l'entend bien. Il est pas là que dans les révolutions. D'ailleurs, il suffit d'aller dans à la sortie d'un stade de foot pour s'en rendre compte. Vous nous avez dessiné ce moment. C'est très riche hein, de réflexions qui sont les vôtres. Encore une fois, c'est un roman. Je sais pas si c'est votre pensée, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu pessimiste.
C'est pas tous mes pensées. Il y a des personnages qui parlent pour moi et des personnages que je fais parler parce que
parce qu'ils sont l'inverse de ce que je suis.
Mais d'ailleurs, il y a pendant une grande partie du roman, il n'y a pas de narrateur. Hein. Ce sont des extraits de journaux, journaux intimes, ce qui donne une écriture assez sèche, en fait. Ouais. Là, vous avez adapté aussi l'écriture à cet exercice-là, et qui, pour moi, fonctionne très bien.
Ben, c'est cool, parce que je me suis bien amusé à faire ça, justement. C'était aussi la volonté, puisqu'il y a plusieurs personnages qui parlent via leur blog. Ben, c'est un travail, quand même, d'essayer de faire en sorte que le style soit différent, qu'au bout de la 2-3e phrase, on comprend que c'est un tel ou un tel qui parle.
On va se pencher un petit peu sur cette première ère de votre livre. Là, vous l'appelez l'ère des réseaux. Elle est toute proche de nous. Hein. On commence, vous situez des premiers soubresauts des années 2035, 2040. Donc, c'est tout proche. On y voit une société, encore une fois, orwellienne. Je pense qu'Orwell fait partie de vos livres de chevet.
Ouais.
Je dirai quelques autres références que j'ai perçues. Mais il y a une société qui est complètement sclérosée, qui est complètement désespérée, quoi. Et sous couvert de démocratie ultime, d'ailleurs.
Désespérée, justement, oui et non, parce qu'en fait, cette société où les gens sont un peu tous habillés pareil, font des boulots relativement inutiles, effectivement, qui rejoint un petit peu Orwell, qui, on le sait, hein, Orwell se penchait plutôt sur le système communiste, alors que maintenant, en fait, ce qu'il a écrit peut s'appliquer à plein d'autres systèmes.
Oui, on peut faire appel à lui tous les jours.
Oui, on peut faire appel tout le temps. Mais en même temps, c'est une société où il n'y a plus de criminalité. C'est une société où les gens ont plutôt besoin de se poser des questions. Il n'y a plus d'affrontements. Donc, elle a aussi toutes les sociétés. La société dans laquelle on vit maintenant, elle a des côtés, alors à mon avis, des fois très emmerdants, mais il y a aussi des choses qui ont un justificatif. Il y a toujours deux versants sur la pièce.
C'est une description que j'aime beaucoup, moi, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà entre les mains. L'importance des réseaux sociaux, il en reste un, d'ailleurs, dans votre société. C'est beaucoup plus simple de contrôler tout le monde.
Je ne sais pas encore si ça sera le réseau de Trump ou si ça sera le réseau de quelqu'un d'autre. Mais...
Les réseaux, les news aussi, les journalistes
les real
comme
news,
moi,
ils
travaillent tous pour la même boîte. C'est Real News.
Non, mais ça serait 100 fois plus pratique pour vous, franchement, pour les journalistes.
Mais oui, vous n'avez pas besoin de se copier l'un l'autre. Bon, voilà, donc une société bien policée, bien cadrée. Ouais. Vous le dites, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus, etc. Ouais. Mais il n'y a plus de plaisir non plus.
Il n'y a plus de plaisir.
Il n'y a plus trop de chocolat, il n'y a plus de sexe. On décide à quel âge les gens doivent mourir. En général, c'est très peu après avoir été travaillé. Hein. La retraite dorée, c'est pas ça.
Ça dépend de la classe que vous obtenez. Ouais. Si vous avez une classe inférieure, vous finissez de travailler à 80 ans parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur la médecine. Mais du coup, à 80 ans, quick. Puis si vous êtes dans une classe supérieure, vous pouvez profiter de quelques temps
en plus.
De plus ou moins de bonheur.
Ouais, voilà. Et puis une classe tout en haut, qu'on imagine assez bien aujourd'hui dans les cerveaux de la Silicon Valley. Quoi, hein, des gens qui se préparent à un monde dystopique où ils
Mais
ont...
Tous ces bouquins dystopiques, que ce soit Orwell, que ce soit Bradbury dans Fahrenheit 451, que ce soit Le Meilleur des Mondes, la plupart du temps, le boulot de l'auteur est ce que j'ai essayé de faire. Après, avec mes capacités, je ne me compare pas du tout à Orwell. Je connais mon niveau, je sais à quel niveau je suis, je sais aussi à quel niveau je ne suis pas. Mais dans tous ces romans, il y a en fait on part de ce qui se passe maintenant pour imaginer les 30 ou 100 années futures, mais la base, c'est ce qui est en train de se passer maintenant.
Ça veut dire que c'est une société qui vous effraye un peu, vous regardez ce qui se passe chez nous.
Non, elle ne m'effraie pas, je la trouve intéressante. Il y a des choses qui sont effrayantes, oui, mais qui ont toujours été. Ce qui m'effraie, une chose qui m'effraie, c'est le manque de mémoire collective totale. Quand je vois la remontée des partis d'extrême droite en Allemagne, alors que les Allemands, en plus, ils ont morflé deux fois, je me dis, mais waouh, c'est surprenant. Mais de nouveau, c'est une question de culture. Moi, j'ai eu une grand-mère qui était en 1114, qui me disait, tant qu'il y aura un Allemand sur la Terre, il y aura du malheur. Comment ces gens qui ont vécu ça...
Elle était française.
Moi, je suis français et suisse. Je suis du Locle et des Ponts de Martel en Suisse et de la Plaine Beauce en France. Donc vraiment, deux régions de Péoué...
Vous auriez pu nous faire un grand roman paysan région plutôt agricole, qu'un roman dystopique. On va s'arrêter après le temps d'une petite pause. On se retrouve juste après pour la deuxième.
Merci.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fred Beltrando, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle de votre livre Le Ruban de Sisyphe, livre aux références multiples, j'imagine, hein, parce que ce monde de la science-fiction n'est pas le mien. J'ai pas été un grand lecteur de science-fiction. Alors j'ai détecté Orwell, j'ai détecté aussi des films, hein, quand on voit le monde du travail dans ce premier monde que vous décrivez, qui est tout proche de nous.
Bah,
on peut imaginer Brasil, évidemment, de Terry Gilliam, certaines scènes de violence, on peut voir Orange Mécanique, Le Prix du Danger, Hunger Games
aussi, ouais, exactement.
Blade Runner avec des robots esclaves qui se rendent compte de leur esclavage et les Anonymous, etc. J'imagine qu'il y a plein d'Asimov,
parce que la partie d'avant de l'interview, on a un peu philosophé sur le bouquin. Il faut dire aussi que c'est fun, sinon il n'y a personne qui va vouloir le lire.
Non mais ça, alors c'est... Bon, j'ai mis des... alors je m'excuse, on met en référence Brésil, ça va,
c'est moi qui fais trop l'intello, en fait, faut que j'arrête.
Quand on met en référence Brésil,
Brésil,
ça
c'est
va
cool, oui.
Non on sourit, mais on peut rire un peu jaune, parce qu'on, parce que souvent on peut se dire qu'on y est déjà un petit peu, quoi, hein, dans les rapports humains, dans la façon, etc. Et puis après, alors, vous partez dans quelque chose de beaucoup plus philosophique, même si vous avez réfuté un peu le mot tout à l'heure, enfin en tout cas le terme de philosophe, laissons ça de côté, mais enfin il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on a conscience de soi-même, de sa place dans le monde, de ce qui est acceptable ou inacceptable, et dans un schéma qui est horriblement figé. Hein. Ouais. C'est... Finalement, je me suis dit, en vous lisant, dans tous les systèmes, on arrive à un moment où on y est avec le capitalisme aujourd'hui, le there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc sortir du schéma, c'est quelque chose d'extrêmement fort.
Ce qui amène à un moment de bascule. Et ce qui est aussi lié à la liberté. C'est marrant parce que j'ai juste entendu ce matin une très belle phrase d'un type dans... C'est Montfort, toubib français académicien, qui disait « La liberté, c'est comme la santé. Quand on commence à s'y préoccuper, c'est qu'on l'a perdue. » Et je lui dis, tiens, c'est parfait, il faut que je la garde pour l'interview avec Barbet. En fait.
Oui, ben voilà. Mais là, on est même au-delà, quoi. Hein, parce que quand on a l'impression que quand vos personnages se rendent compte du système dans lequel ils sont, c'est pas le moment où ça commence à picoter. On est déjà bien installé dans le système répressif, totalitaire, etc.
Oui, mais après, c'est le système qu'on vit aussi aujourd'hui, alors où il y a les prémices de ça, mais peut-être que ça va s'arrêter avant que ça devienne trop tard, on ne sait pas, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Y a aussi des choses très marrantes dans la façon dont on voit les choses. Si on prend un petit peu une position méta, si on peut un peu du recul, parce qu'il y a des dérives partout. Je trouve que le souci en ce moment, c'est le côté très manichéen. On est blanc ou noir, on est pro-Gaza ou on est pro-israélien, on est pro-ceci ou on est pro-cela, et il n'y a pas de juste milieu. Les gens ont des fois... Les gens, pas tous, parce que souvent, quand on discute de nouveau avec un individu tout seul, il y a un juste milieu.
Il y a une majorité de gens qui
réfléchissent, mais la masse, en fait, part dans ce juste milieu.
C'est les deux pôles qui parlent le plus fort.
Voilà.
Mais en même temps, quand il y a trop de juste milieu, il n'y a pas d'évolution, quoi.
On devient plan-plan, et puis il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ces vagues déferlantes qui viennent de droite et de gauche. Qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Est-ce qu'elles font un petit peu sortir les gens de leur zone de confort?
Bon, il y a un personnage, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment Léa Dick Abbott.
Léa Dick Abbott, oui. Ah, tiens, c'est marrant.
Voilà, qui est historienne, et on voit à quel point l'histoire est déterminante dans toutes les dictatures. Ouais. Il faut contrôler l'histoire.
Ouais.
Et elle arrive comme une historienne qui va dire, mais non, là, il y a un truc qui cloche, ça ne marche pas. Et elle découvre ces textes du Messie, du néo-Messie, John Doe. Et ça donne le deuxième épisode de Révolution et de Révolte, de votre livre. Là, on y est aussi. Bon sang, les scientifiques, les historiens, les gens sont remis en question aujourd'hui.
Oui, oui, alors c'est effectivement... Ah ben oui, c'est vrai. Je n'ai même pas pensé à ça. Excellent. Merci, Florian. Oui, il y a de ça aussi. Mais Léa Dick Abbott, elle a un truc que je trouve intéressant, si je puis dire qu'un de mes personnages, je trouve intéressant, c'est que, et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnages du bouquin, elle n'est pas complètement actrice de son destin. Parce qu'elle découvre ses écrits, mais en fait, ils sont diffusés sans qu'elle soit au courant par quelqu'un d'autre. Donc, elle est victime, en fait, de ce qui se passe, qui l'empêche pas de penser, d'avoir son
tout
truc.
Tout comme son prédécesseur, John Doe, d'ailleurs, qui, vraiment à son corps défendant, devient le néo-messie et devient une figure dont il faut admirer le destin. Y a aussi une réflexion, là, sur le fait qu'on est les jouets de son propre destin, et puis qu'il n'y a pas tellement de libre arbitre et de volonté propre.
Alors oui, parce que... vous avez lu le début de la troisième partie, effectivement, c'est la grande question de Léa Dick Abbott. Est-ce qu'elle a vraiment pu choisir son destin ou pas? Est-ce qu'elle a pu faire son truc? Mais tous les personnages, en tout cas une grande partie, les personnages principaux du bouquin, vont être un moment dans ce choix. Est-ce que je décide moi ou est-ce que je continue à être l'acteur passif en fait de ce qui est en train de se passer autour de moi.
Il y a un chat.
Il y a un chat, le mien ?
Non, il n'est pas là,
ah.
Nemo.
Ah oui, 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 bah, c'est le mien en fait, exactement. Il y a le chat, qui est à mon avis le personnage que je préfère.
C'est
de tout
le personnage essentiel du livre, en effet, ouais. Le transmetteur.
Ben bah, oui, le chat, il va être transmetteur, il est le chat, on va dire, c'est une époque où effectivement tout le monde a un chat robot, et là, ce chat va développer, et c'est là justement ce que je trouvais intéressant dans ce personnage, c'est qu'il va développer des capacités empathiques et de sympathie, mais qui sont presque au-delà de ce que certains humains peuvent faire. Donc l'idée, c'est de dire, ok, ben est-ce que...
Oui, j'ai relevé une phrase à ce propos, hein. Ouais. Page 180, « Si un organisme artificiel avait la possibilité de développer une réelle empathie, on pouvait espérer qu'un humain en soit capable un jour. »
Oui, oui, oui. Et oui, mais en fait, je pense... Bon, ça, c'est
pas
un
très
truc...
optimiste sur l'espèce. Hein.
Non, mais l'humain a plein de capacités, etc. On n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Je pense qu'on a un potentiel extraordinaire. On utilise ce potentiel plutôt pour nous désinguer tout seul, mais c'est pas grave. La planète, elle va vivre sans nous. Hein. On n'est rien. L'humain est une partie infime, en fait, de cet écosystème planétaire, universel, etc. Mais maintenant, quand on regarde dans les organes vivants, ça, c'est un petit peu une théorie de vieux con à chacha que je suis, parce que bah, vous me connaissez, moi, les animaux, j'adore
voilà,
ça, etc.
Moi, je suis votre collègue à chien-chien, donc sentez-vous libre.
Voilà, on est chacun nos vieux cons animaux domestiques. Mais j'ai pas beaucoup de guerre ou de machin comme ça. Vraiment, on commence à être vieux un petit peu, mais il y a un truc qui me révolte toujours, c'est les connards qui traitent mal des animaux, parce qu'un animal, je ne connais pas d'animal qui font souffrir pour le plaisir. Les gens disent « Ah, mais les chats, ils font souffrir les oiseaux, c'est juste pour faire chauffer la viande pour pouvoir le bouffer après. » Et capable de cet amour empathique que même nous, cet amour inconditionnel, alors qu'on peut avoir dans le cas d'une relation père-fille ou d'autres choses comme ça, mais dans le couple, c'est jamais vraiment un amour inconditionnel. Dans l'amitié, des fois, c'est un amour inconditionnel, mais c'est difficile à avoir.
Bon, le chat, il traverse tout le livre, il est le complice de tous vos personnages, hein, ouais. Parce qu'ils se le transmettent, ouais, c'est un chat robot, hein, vous l'avez dit, donc il vit très très longtemps, et il a un rôle déterminant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, parce que justement, on peut, moi qui ne suis pas un grand client de science-fiction, bah, j'ai trouvé de quoi nourrir mes angoisses dystopiques actuelles avec, ouais. Avec vos réflexions, qu'elles soient proches ou lointaines, je m'y retrouve, toutes mes réflexions se retrouvent dans les vôtres et c'est plutôt très bien amené. Cette maison d'édition là, on va partir un peu là-dessus, Rivière Blanche, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Fleuve Noir, hein.
Ouais, exactement,
c'est une maison qui est née, je crois, de la fin de l'anticipation et de la SF chez Fleuve Noir.
Exactement, c'est Jean-Marc L'Officier et d'autres, et j'ai contact avec Jean-Marc principalement, qui a relancé ça, qui est une maison d'édition assez réputée en France, orientée sur la science-fiction. Et effectivement, il y a une suite logique. D'ailleurs, dans les couvertures, alors pas dans le mien, parce que le mien est sorti en hors-série, parce que normalement, au départ, on devait en faire un diptyque, puis finalement, ça ne m'arrangeait pas trop. Ils ont été très gentils de le sortir en un seul volume. Pour que j'aie tout, mais la collection habituelle, elle ressemble beaucoup aux illustrations Fleuve Noir, Média X, temps en arrière, où j'étais plus ou moins pané. Et puis, comme le poisson. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher.
J'avais la tranche. Moi, c'est la tranche qui m'est venue, la tranche panée.
C'est mon côté barbouze qui revient comme ça.
Oui, c'est très bien. C'est très bien.
et puis voilà, oui, maison d'édition intéressante, une super bonne équipe. J'étais très bien accompagné parce que ben, quand on envoie un bouquin comme ça, déjà, on a la chance que les gens le trouvent assez intéressant. J'ai pas eu l'obligation de faire de grosses modifications. Après, il y a quand même des histoires d'orthographe, de choses comme ça. On a quand même des gens qui sont dansés le métier, qui ont bien corrigé ça, dont Jean-Michel Archambault, qui lui-même a été directeur de collection pour Perry Rodan ou des choses comme ça. Je sais que là, les seules personnes qui lisent de la SF vont savoir
voilà,
ce que c'est
ça,
les
oui,
autres.
Oui, oui.
Partez du principe
c'est
que c'est un mec cool,
c'est une maison vraiment spécialisée
boulot,
et qui a vraiment un cercle. Hein. C'est ce qu'on appelle la niche, quoi.
Oui. Ah oui, alors ça, c'est clair que si je voulais faire un succès d'édition qui est accessible à tout le monde, j'aurais fait un bouquin de développement personnel, mais je ne sais pas faire ça. Et puis la science-fiction, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis que je suis tout petit, donc c'était un petit peu la voie logique.
Je vous ai cité un certain nombre de références, vous les adoptez toutes ?
J'adopte
tout. Ouais. Tout ce qu'on propose, j'adopte.
Non, mais, oui. En SF,
j'avais pas pensé à Blade Runner. En SF, Asimov, bien évidemment, pour les robots.
Alors lui, je l'ai vu cité quelquefois, mais je le perçois pas parce que je l'ai pas lu. Hein,
Et puis, mais par contre, il y a des choses, par exemple, Herbert, je me retrouve pas là-dedans parce que pour moi, c'est une science-fiction, alors que j'aime beaucoup, que je lis, mais je voulais écrire un livre qui soit, comme vous le dites avant, aussi accessible aux gens qui sont pas amateurs de science-fiction.
Moi j'ai eu du
justement,
plaisir.
Parce que la science-fiction, ça peut
être
étonnant, un peu
je voulais voir si c'était un choix de votre part. Il n'y a pas tellement de descriptions.
Non.
On ne décrit pas le monde d'après. Il faut aller le percevoir par petites touches. Hein,
oui.
Un petit objet, un petit véhicule.
Ah, je suis pas Balzac, ça c'est clair.
Ni Victor Hugo. On passe pas 300 pages sur la description de la cathédrale. Ouais. Mais il y a en effet une... on n'a pas besoin non plus... Alors, vous avez mis des noms un peu compliqués. Là, je ne sais pas s'il y a des références d'ailleurs à ces noms.
Oui, il y a quelques références à Star Trek. Il y a des références qui ne font rire que moi, en fait. Il y a un personnage qui s'appelle Anton Valak. Parce que dans ma tête, c'est le comédien Elie Valak, vieux. Il y a des trucs que je suis le seul à comprendre, mais ça me fait marrer, moi. Ça va très bien. C'était quoi ? Vous avez commencé un truc avant, j'ai perdu le fil.
Si c'est truffé de références, comme on l'imagine, et si ces noms sont...
Oui, il y a des noms qui sont imaginés, il y a des noms qui viennent comme ça, on ne sait pas tellement pourquoi. Mais...
Parce qu'il y a Jérémy, hein ?
Ouais, Jérémy Twilk. Je ne sais même pas d'où c'est sorti, ça. Aucune idée.
Ah, parce qu'il y a une race dans Star Wars qui s'appelle les Twelk.
Non, pas du tout. Non. John Doe, c'est pas... Alors ça, c'est volontaire. Il s'appelle
Jonathan Doe
parce qu'il est Monsieur Nobody, grosso modo. Ça, c'est un petit peu le but. Bah, parce que c'est le Monsieur Tout-le-Monde, grosso modo.
Dans la culture anglaise, quand on découvre un cadavre, par exemple, qu'on ne connaît pas, donc on n'a pas pu identifier, on l'étiquette John Doe, quoi.
Ou Jane Doe, si c'est une fille.
Monsieur Nobody.
Si tant est qu'on arrive à reconnaître le sexe encore.
Monsieur qu'on ne sait pas qui c'est.
Exactement. Là, il y a un but logique. Et puis, Léa Dicabot, ça vient de Ichabod Crane, qui est le personnage principal du Chevalier sans tête. Okay. Voilà. Mais il n'y a que moi qui comprends ça. Ce n'est pas d'une importance folle. Hein. Mais voilà, dans les références, il faut que je me retourne pour voir, parce que je ne me rappelle même plus des bouquins que j'ai lus, etc.
On ne va pas y passer trop de temps. On arrive à la fin de cet entretien, de toute façon. Mais il y a un plaisir de lire qui, souvent, chez beaucoup de gens, précède le plaisir d'écrire. C'est votre cas. Il y a un plaisir de lire chez moi qui ai lu votre livre, en effet. Et je le confirme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas un livre... Alors, il plaira probablement aux gens qui aiment la science-fiction, mais pas que, parce que on n'a pas besoin de faire l'effort d'entrer dans un monde qui nous est étranger, quoi.
Et puis, effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez avant, je laisse aussi... les gens doivent faire leur cheminement pour décrire les endroits. Comme on a dit, je suis ni Balzac ni Udo, j'ai de loin pas le talent des deux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le cheminement de pensée des personnages. Donc, et attention, je vais le dire en toute modestie, je serais plus proche de Philippe Roth... Bien que j'écris pas du tout comme lui et qu'elle a un talent qui est largement au-dessus du mien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des caractères. Et qu'ils soient dans une pièce carrée ou ovale, on s'en fout, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui vont leur arriver à ces gens et puis comment ils vont se dépatouiller.
Bon, ils se dépatouillent en tout cas, et puis ils nous offrent une vision du destin de l'humanité. Hein. C'est assez ambitieux votre bazar et ça marche.
Alors, je suis content, c'est rare qu'on me dise que mon bazar est ambitieux. Merci beaucoup. je vais le garder. Sinon.
Dieu reconnaîtra les siens. Rivière Blanche, c'est la maison d'édition. Le ruban de Sisyphe, c'est le titre de votre livre, Fred Beltrando. Merci.
Disponible dans toutes les librairies du Chablais.
Bien sûr.